Bonjour et bienvenue dans l'émission Un jour un chiour. Vous êtes en compagnie de Philippe Helbez et nous parlerons des diplés, c'est-à-dire de la paracha Vaera et Bo. Cette étude est tirée du Beit Yaakov concernant les deux parachiotes que nous avons cités. Le problème du début de notre paracha Vaera est le passage d'une relation classique avec Dieu telle que l'avaient vécu les patriarches, c'est-à-dire avec le nom Kel Shakai, vers une relation unique et exceptionnelle où Moshe pourra parler face à face à Dieu à tout instant. En effet, les patriarches ne connaissaient pas ce niveau de dévoilement que Moshe avait reçu. Eux, ils ne s'adressaient à Hachem ou Hachem ne leur parlait que à travers les rêves, mais réveillés, ils n'avaient pas accès à ce niveau de dévoilement. Alors que Moshe va exiger au nom du collectif, du clan Israël, une relation directe avec Hachem et dans un état complètement éveillé. Et le fait, si vous voulez, que Moshe veuille passer du Shem Shakai au nom Yudke Vavke, c'est-à-dire passer de Elohim, le dieu de la nature, vers le Shem Havaya, qui est le dieu qui est au-dessus des lois de la nature, cela préfigure le type de relation que Moshe veut établir avec Hachem dans le but de libérer et d'affranchir les Bnei Israël du joug égyptien. Et ce n'est pas par hasard si cette discussion a lieu en introduction à la paracha Vaera, car tout l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est de montrer qu'Hachem est au-dessus des lois de la nature, que Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Autrement dit, le monde n'est pas condamné à subir les lois de la nature. Si l'homme cherche à se rapprocher d'Hachem, alors HaKadosh Baruch Hu peut lui permettre de vivre avec des règles qui sont au-dessus des lois de la nature. D'où le dévoilement du Shem HaMefourash, Yudke Vavke. En passant, Hachem va rappeler à Moshe une idée fondamentale, c'est que tout le début de la paracha cherche à montrer à Moshe que sans le travail des patriarches, Moshe lui-même n'aurait jamais pu accéder à ce niveau. On aurait pu croire que parce que Moshe a un niveau de dévoilement plus important que celui des patriarches, cela aurait fait de lui un homme supérieur aux patriarches. Eh bien, la première chose que fait la Torah dans cette nouvelle relation avec Dieu, c'est de rappeler à Moshe Rabbeinu que sans le travail préalable des trois patriarches, Moshe n'aurait jamais atteint ce niveau. Alors maintenant, on peut comprendre que, pour être très clair, la réalisation de Diplé, cela consiste à montrer que le Shem Havaya, le nom d'Hachem, Yudke Vavke, est supérieur au nom Elohim, c'est-à-dire que Dieu maîtrise complètement le monde de la nature et des lois physiques du monde matériel. Eh bien, le déploiement des dix plaies consistera à prouver qu'Hachem maîtrise et est au-dessus des lois de la nature. Mais avant d'exercer tout ce pouvoir, toi, Moshe, tu dois te rappeler que sans l'action des trois patriarches, tu n'aurais pas ce pouvoir. Et c'est pour cela que dans la Amida, tous les jours, nous commençons notre prière par Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Velokei Yaakov, car aucune demande personnelle ne sera exaucée si elle n'est pas rattachée aux trois patriarches. Maintenant que les choses sont dites, Moshe va pouvoir aider Israël à retrouver son libre arbitre. C'est-à-dire, Moshe va les aider à affranchir leur corps et l'esprit de l'influence égyptienne. Car la Géoula, cela consiste à affranchir, c'est-à-dire à retrouver son libre arbitre concernant à la fois les désirs du corps et la manipulation des idées de l'esprit. Les Égyptiens prétendent détenir les clés intérieures du monde matériel et être à la source de tous les bienfaits. En effet, il y a une telle richesse en Égypte qu'ils ont l'impression qu'ils maîtrisent complètement le monde matériel. Eh bien, le travail des dix plaies consistera à montrer qu'en réalité, c'est Israël qui est au centre de la vie et que toutes les richesses qu'une nation peut posséder lui vient de la présence d'Israël sur son territoire. Autrement dit, que la raison d'être du monde, c'est le peuple d'Israël. Et non pas en tant que peuple, mais en tant que Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire prêtre capable de servir la volonté d'Hachem. Et tout celui qui servira la volonté d'Hachem s'appellera peuple d'Israël. Bien évidemment, à la condition qu'il s'inclue dans le projet d'Abraham, Israël et de Yaakov. Si les dix plaies se trouvent séparées dans deux parachutes différentes, c'est parce qu'elles ne sont pas du même niveau. Il y en a 7 dans la paracha Vaera et 3 dans la paracha Bo. Les 7 premières s'efforceront de libérer le corps, tandis que les 3 dernières s'attaqueront à l'aliénation de l'esprit des Juifs. Dans Vaera, les 7 plaies sont encore accessibles à la compréhension de l'homme. Cela est du ressort de l'homme et ne dépend que de son application à faire lui-même le tri. Autrement dit, l'homme n'est pas largué lorsqu'il assiste aux 7 premières plaies d'Égypte. Il arrive encore à comprendre quelque chose de ce qui se passe. Mais dans la paracha Bo, l'homme n'est plus en mesure de capter les choses et doit se résoudre à se soumettre à la grâce de Dieu. C'est-à-dire que les 3 dernières plaies sont largement au-dessus de ce que l'homme peut comprendre. Je dois vous rappeler ce qui est au centre d'une plaie d'Égypte. Chaque plaie correspond à un dévoilement d'Hachem, c'est-à-dire à un dévoilement d'une certaine vérité. Lorsque Dieu ouvre les portes de la clarté, ça s'appelle un dévoilement, eh bien, les Égyptiens vont le prendre d'une certaine manière, tandis que les Hébreux vont le prendre d'une autre manière. Ça serait une erreur grave de croire que les plaies n'étaient que des coups portés à l'encontre des Égyptiens pour les punir du traitement qu'ils ont fait subir au Béné Israël. Pour chacune des plaies, Akadosh Baruch Hu dévoile une idée fondamentale. Si les Égyptiens le prennent comme un fléau, une maca, c'est parce que eux, ils ne veulent pas se clarifier par rapport à ce dévoilement. Alors que Israël est capable de se remettre en question et le dévoilement n'est là que pour les aider à prendre conscience du mensonge dans lequel ils s'étaient engouffrés. Et je répète parce que c'est fondamental, il n'y a qu'un seul dévoilement, tout dépend de la manière dont l'homme accepte ce dévoilement. Les 10 plaies correspondent en fait aux 10 sphérotes et aux 10 peuples dont la terre a été promise par Hachem à Abraham. Israël héritera de leur terre et de leur force. En ce qui concerne les 7 peuples de Canaan, qui correspondent aux 7 premières séphirotes, Malchut, Od, Yesod, Netzach, Gvura, Tiferet et Chesed, Israël les vaincra dans ce monde, puisque c'est à la portée de l'homme. C'est pourquoi Israël parviendra à les conquérir. En revanche, pour les 3 dernières plaies, qui correspondent à Keter, Chochma, Bina, il n'est plus donné à l'homme le pouvoir de se clarifier en ce monde, et donc encore moins de prendre le dessus sur ces 3 derniers peuples, car la clarification viendra d'Hachem à la fin des temps. Voyons maintenant de plus près ces 10 plaies. La plaie du dame du sang correspond à Malchut. Alors tout ceci, c'est des explications données par le Beit Yaakov qui sont extrêmement puissantes et qui dépassent un peu notre réflexion. Donc pour lui, la plaie de dame correspond à l'acte de retirer l'amour et le goût de toute chose. Le poisson, le dag qui est dans le Nil, représente le sentiment d'amour de celui qui donne. Il précède le don. Les Égyptiens ne le possédaient pas. Ce sont des faux gentils. Autrement dit, la plaie de dame, elle vient montrer qu'il y a des donneurs dans le monde, dans la vie, mais qu'en réalité, ces gens donnent pour mieux prendre sur les autres. Le dame, le sang, représente la force destructrice du Nil qui ne peut apporter aux hommes une unification sociale et morale. Et à chaque fois qu'une société veut proposer le partage des richesses, on voit que c'est l'éclatement de la cohésion sociale. Cela signifie que la cohésion sociale des nations est éphémère, c'est un leurre. Du côté de la Kedusha, cela correspond à la Sphira de Malchut, le royaume, qui a pour fonction de sujet dans la réalisation du projet collectif. Malchut est le dibour qui s'adresse à son voisin et le rafraîchit de sens pour l'intégrer dans le groupe. Car lorsque nous donnons un Dvar Torah à une personne, nous pouvons le clarifier, lui donner un sens à sa vie. Le fait qu'il possède un sens, eh bien, ça va lui permettre de mieux s'intégrer dans le groupe et donc d'asseoir la Malchut, le royaume d'Hachem. La deuxième plaie, c'est la plaie des Tzvadéim, c'est-à-dire que ça correspond à la Sphira de Od. Autrement dit, lorsqu'un juif demande une faveur à son voisin, immédiatement et sans discuter, si ce voisin le peut, il s'efforcera de le combler. Les discours des Égyptiens ne pénètrent pas le cœur de leurs concitoyens. Ils croissent comme des grenouilles, dont les paroles sont vides de sens. Cela fait allusion à la Mida de Hod, qui représente l'intériorité qui se trouve dans toute chose. Les Égyptiens sont capables de dire des choses philosophiques, sociales et morales à leurs concitoyens, sans que pour autant ils aient réussi à convaincre le cœur de leurs concitoyens. Eh bien, lorsqu'un juif demande de l'aide à un autre juif, ce dernier n'est pas insensible à son aide, et s'il peut l'aider, immédiatement, il va s'exécuter. La troisième plaie est la plaie des Kinim, et cela correspond à la Sphira de Yisod. Les poux ont une capacité d'extension très rapide. Ils incarnent le mal qui se répand à une vitesse vertigineuse. Les Béni Israël, eux, sont capables de se maîtriser, de dominer leurs instincts, contrairement aux nations qui développent à une vitesse incroyable tous les plaisirs de ce monde. Ils ne courent pas après les plaisirs, mais les Béni Israël sont capables de rester modérés. Ils mettent une limite à leur plaisir. D'ailleurs, cela correspond tout simplement à la Mida de Brit Mila. Ceci fait référence à la Mida du Yisod, qui nécessite la maîtrise de soi, qualité nécessaire pour avoir le droit de pouvoir gérer la vie des autres. Si Yosef se permet de gérer la vie de ses frères, c'est avant tout parce qu'il est Tzadik Yisod Olam, c'est-à-dire qu'il est capable de maîtriser ses pulsions et ses sentiments. Alors que quand on ne maîtrise plus ses pulsions et ses sentiments, comment voulez-vous aider les autres? Puisqu'à chaque fois que vous êtes amené à parler avec les autres, vous commencez par parler de vous avant d'écouter ce que les autres ont à dire. La quatrième plaie est la plaie de Harov. Elle correspond à la Sphira de Netzar. Les Égyptiens perturbaient et mélangeaient les idées du peuple juif jusqu'à ce qu'eux-mêmes arrivent à penser que du mal. Par un matraquage permanent d'idées, la société arrive à nous faire croire des choses jusqu'à un moment donné où on pense du mal une certaine catégorie de la population, alors qu'a priori on avait un avis qui était neutre. On nous mélange tellement les idées, on nous fait des associations de genre qu'à la fin, il y a un tel amalgame qu'on est amené à haïr des gens qu'on ne connaît pas particulièrement. Or, un homme qui met de l'ordre dans ses idées finira par sortir de l'influence des nations. La Mida de Netzar symbolise la victoire de celui qui contrôle son cœur. Il ne vit pas selon les idées de la pensée unique, mais en réfléchissant sur lui-même, il arrive à faire le tri entre ce qu'il pense et ce qu'on l'oblige à penser. La cinquième plaie est la plaie de Dever. Elle correspond à la Sphira de Gevura. L'Égyptien affirme qu'il saisit le sens des choses, que rien ne peut lui échapper. Toute la force et la puissance de l'Égypte peut s'écrouler à tout instant. Et avec la peste, c'est l'Égypte qui se retrouve entièrement paralysée. La Mida de Gvura, c'est-à-dire de rigueur, consiste à reconnaître que seule la puissance appartient à Dieu. Et l'homme a du mal à avoir l'humilité qu'il ne maîtrise pas le monde. Et plus encore, il fait croire à la société qu'il en a le contrôle absolu. Et il suffit de voir lorsque les éléments de la nature se déchaînent pour réaliser que l'homme est très loin de maîtriser les éléments de la nature. La sixième plaie est la plaie de Shérine. Elle correspond à la Sphira de Tiferet. Israël sait avoir le sentiment de honte devant la vérité. Ils n'ont pas la nuque raide et ne s'entêtent pas quand ils ont tort. Lorsqu'ils découvrent qu'ils ne sont pas en harmonie avec une certaine vérité, ils n'ont pas honte de la reconnaître et de se plier à cette vérité. Alors que les Égyptiens ne se gênent pas pour mentir, et en plus ils en sont fiers. On a rarement entendu un homme politique pris en flagrant délit de mensonge exprimer un quelconque remords sur l'attitude qu'on lui reproche. Au contraire, parfois ils en sont même fiers. C'est parce que les Égyptiens ne connaissent pas la retenue des gens qui ont honte. La Mida de Tiferet est l'attitude qui consiste à rendre jolie la forme et à redonner de la dignité aux choses. Lorsqu'on est l'objet d'une vérité, il ne faut pas avoir peur de reconnaître que l'on s'est trompé, et le sentiment de honte que nous pouvons ressentir atteste de la bonté qui est en nous. La septième plaie est la plaie de Barad, c'est-à-dire la grêle, et correspond à la Sphira de Chesed. En effet, les Égyptiens pensaient qu'ils méritaient tous les bienfaits que la terre d'Égypte leur apportait. Ce n'était pas une faveur de Dieu, mais la récompense ou la conséquence de leurs bonnes actions dans leur vie. Même si deux Juifs sont de niveaux différents dans leur connaissance d'Hachem, cela ne change rien, car c'est Dieu qui accorde la sagesse gracieusement. Autant les Égyptiens pouvaient considérer que c'était légitime pour eux d'avoir une telle richesse du fait de leur pseudo-bonne conduite, eh bien, chez les Bnei Israël, ça n'est pas comme cela que nous réfléchissons, car le peuple juif accepte que la distribution des richesses d'Hachem soit différente d'un homme à l'autre. Nous ne sommes pas propriétaires de la richesse d'Hachem. La Mida de Chesed représente l'attitude de Dieu qui accorde sans limite ses bienfaits à l'homme qui se comporte selon la volonté d'Hachem. La huitième plaie est la plaie de Harbé, les sauterelles. Pourquoi ? Parce qu'elle symbolise le déplacement d'un groupe organisé sous le commandement d'un seul roi, d'un chef. L'existence d'une cohésion sociale sous la pression d'un roi fédérateur donne l'impression que l'Égypte est sous la protection divine. Ils sont commandés par une force spirituelle très élevée. Chez les Égyptiens, il n'y a pas la notion du dévouement dans le détail. Israël, lui au contraire, représente l'éclatement d'une lumière globale et divine en 600 000 petites lumières. Lui, ce peuple, est guidé par une seule volonté, celle de Dieu. Pour Israël, le détail a une grande importance. Chaque action participe à la proclamation de la vérité, comme chaque Bnei Israël peut participer à la construction du Mishkan. L'unité du peuple juif amène la Teshuvah en son sein et le peuple peut redécouvrir l'importance de chaque âme, l'importance de la mosaïque juive. Il ne peut y avoir de faute chez le Bnei Israël que lorsque le peuple est coupé de sa source. Et c'est pour cela que le jour de Yom Kippour, où nous remontons à la source primordiale, puisque le Kohen Gadol va entrer dans le Kodesh HaKodashim et qu'il va nous relier à nouveau à la lumière de la création du monde, le Or HaGanouz, eh bien, dès l'instant que nous remontons à notre source, nous obtenons la Kapara et le peuple retrouve son unité à l'issue de Yom Kippour. La Mida de Bina consiste à redonner du sens et de la conscience à la vie. Il existe un savoir-vivre qui peut organiser le cœur de la société comme un roi peut donner une impulsion à sa nation. Le discernement, la Bina, apporte la Teshuvah et la guérison à ceux qui s'y accrochent. La neuvième plaie est la plaie du Rocher et elle correspond à la sphéra de Keter. Les Égyptiens, dans la forme la plus inconsciente, ne sont pas rattachés à la volonté divine. Ils ne sont et ne seront jamais au centre de la création. Ils n'ont fait partie de l'histoire que parce que des Juifs ont eu besoin de se clarifier. Israël n'a aucun mal à accomplir toutes ces lois irrationnelles, les chukim, qu'on appelle aussi dogmes, car au fond, ils sont fortement attachés à la volonté divine, même quand ils ont perdu leur lucidité. Et le fait qu'Israël est capable d'accomplir les yeux fermés toutes ces lois énigmatiques montrent bien que la raison pour laquelle nous les faisons n'est pas d'ordre rationnel, mais c'est parce que nous avons une attache inconditionnelle, irrationnelle, à la volonté d'Hachem. Pourquoi je dois aimer mes parents? Tout simplement, c'est parce que c'est au-delà de ma propre force. Et c'est pourquoi il ne faut jamais rompre le lien à notre ascendance, car si aujourd'hui je suis ce que je suis, je le dois forcément au travail qu'ont fait mes prédécesseurs, c'est-à-dire la maison paternelle. C'est-à-dire qu'il existe en nous un attachement à la Torah qui va au-delà de ce que je fais à un instant donné dans ma vie d'aujourd'hui. Je crois à Hachem parce que j'ai un roman familial. D'ailleurs, on a l'habitude d'amener les enfants à la synagogue à Rosh Hashanah parce qu'on croit fortement à l'enseignement inconscient de la Torah. Et on est persuadé que l'enfant, même s'il ne comprend rien à ce moment-là, perçoit les enjeux du Rosh Hashanah. La Mida de Keter représente la couronne qui permet la distinction entre Israël et les Égyptiens, Israël et les nations. Elle est placée juste au-dessus de la tête, comme ces lois irrationnelles qui dépassent la raison. Enfin, la dixième plaie, le Behor, correspond à la Sphira de Chorma. Le premier-né représente la première goutte de semence, le premier désir le plus ardent de l'homme. De même, Israël a été pensé par Dieu avant même que la création ne soit commencée. À l'aube Mechashava, Hachem témoigne de la profondeur du lien qui existe entre Israël et Hachem, existence d'une Kedusha au sein d'Israël. Et ce n'est pas par hasard si à l'issue de la Parashat Bo, nous parlons de la mitzvah Kadesh Likol Bechor, de la sanctification du premier-né juif, c'est que si on sanctifie, c'est qu'il y a la preuve d'une trace de Kedusha dans l'enfant. Et cette Kedusha, elle est inconsciente, puisqu'à cet âge-là, il n'a rien prouvé. Et pourtant, il faut racheter cette Kedusha. Cela montre qu'elle existe. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de la Parashat Bo, eh bien, il y a une véritable révélation qui se produit au sein même du cœur d'Israël, c'est qu'il existe au plus profond de lui une Kedusha, celle qui à ce moment-là, les Bechorot, et qui plus tard sera reprise par les Kohanim, les spécialistes de la Kedusha. Par l'annonce de Rosh Chodesh, Hachem dévoile au peuple juif son incroyable pouvoir de renouvellement. La Mida de Chorma représente la sagesse qui déborde de projets à réaliser. La Itra de Chout du peuple juif, c'est-à-dire son renouvellement, dépend de la Chorma qui, elle, est infinie. Alors si je crois à l'infini d'Hachem, et donc l'infini des possibilités de ce monde, alors à ce moment-là, je peux croire au renouvellement du peuple juif, ce qui se traduit du point de vue historique à la sortie d'Égypte. Conclusion, à chacune des plaies, Dieu a apporté au peuple juif une clarification qui le renforçait dans son identité alors qu'il enfonçait définitivement l'Égypte dans sa virtualité. Il est clair que l'interprétation que donne le Beit Yaakov sur les 10 plaies n'est et ne peut pas être exhaustive. Il y aura forcément d'autres auteurs qui donneront leur point de vue est complètement différent de celui du Beit Yaakov sur les 10 plaies. Le seul point que j'ai essayé de développer à travers ce cours, c'est l'idée qu'une plaie correspondait à un dévoilement unique, dévoilement qui pouvait être bien pris ou mal pris, selon la nature de l'homme qui en avait pris conscience. Les interprétations du Beit Yaakov en sont une parmi tant d'autres, et il appartient à chacun d'en trouver encore de nouvelles facettes. Je voudrais dédier ce Dvar Torah à la mémoire de Nathalie Sarah Hayataleh Batorida, qu'elle réside en paix auprès de son Créateur. Je vous souhaite Shabbat Shalom.
אם את עוזבת, הקשיבי, אולי כבר מאוחר. אם את צריכה, אם את חייבת, חכי קצת, עוד רגע, עוד מחר. יכול להיות שאת עוזבת בבת אחת את כל הטעויות, את שגיאותיי את מגייסת, באהבה עושים הרבה שטויות. אל תעזבי אם את עוזבת, חכי קצת עוד רגע עוד מחר. אל תרצי אם את הורסת, הקשיבי אולי לא מאוחר. יכול להיות שאת צודקת, מה תעשי בצדק בלעדיי. יכול להיות שאת בודקת, אל תנסי אותי יותר מדי. תביט בי תסכימי, תראי אותי מתפתל, כל כך רוצה שתביני, כל כך פוחד לקלקל, רוצה להיות השופטת, תמצאי, ירצה לטובתי, כל כך גאה ושותקת, תסתכלי עליי ותצחקי, אל תעזבי אם את עוזבת, הקשיבי אולי לא מאוחר, אל תעזבי אם את דורזת, חכי קצת עוד רגע עוד מחר. רק אותך אוהב הלילה, דמדומים ומנגינות, והמתנה שלי הלילה, בלי אותן האכזבות, רק אותך רוצה הלילה, אין לי כלום גם לא מילים, ואני חושב חולם עלייך, את כמו מיליון שירים, כוזרת לי הלכת עם מישהו אחר, לפעמים אני חושב איך לאהוב אותך כל הלילה, אין לי לילה, אין לי יום, אין לי לילה, למרות שאת נסערת כבר ממישהו אחר, אותך אני אכאב עדיי יותר עם בוא הערב, ואם אשכח הלב תמיד זוכר, איתך היו ימיי דולקים כאש תמיד בוערת, איך לא בן צווארך צונח על כתף זרה, איתך יקדו שוב על ומי מלאהבה אחרת, איך השריפה היא רק בינות רע, אצלי הכל בסדר, ולא חשוב אם לא אמצא תשובה, אצלי הכל בסדר, היום כבר לא מתים מאהבה, אצלי הכל בסדר, ולא חשוב אם לא אמצע תשובה, אצלי הכל בסדר, היום כבר לא מתים מאהבה.